Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Comment parler de ce qui ne s'est pas encore passé? C'est le dilemme de cet épisode. Il est enregistré jeudi 14 mars 2024 à 17h, à la veille d'une rencontre entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron à la chancellerie. À leur côté, il y aura aussi le Premier ministre polonais Donald Tusk. Amitié, solidarité, unité, de Paris à Varsovie. L'image berlinoise sera forte, c'est sûr, mais aura-t-on plus que de l'affichage? On s'en prend à rêver à de grandes annonces, forcément. Les protagonistes ont dû mettre à profit ces trois longues semaines de froid pour avancer sur leurs désaccords, non? Ce serait la logique habituelle et fructueuse du franco-allemand. Mais l'ambiance à Berlin est morose, plombée, il y a comme un flottement dans le fonctionnement même du pays. Les problèmes intérieurs allemands expliquent-ils le côté prudent, voire fuyant, du chancelier? Bienvenue dans ce nouvel épisode, construit une fois de plus dans le flot de l'actualité. Même si elle était très attendue et même espérée depuis des semaines, l'annonce de cette rencontre berlinoise en format dit de Weimar, c'est-à-dire à trois avec les Polonais, rebat les cartes. On verra ce qu'elle nous apportera. Sans anticiper sur le contenu, je vous renvoie à l'épisode précédent. Vous aurez le contexte général de cette rencontre, un bon résumé des positions des uns et des autres et une présentation des enjeux. Bonjour Pascal Thibault.
Salut Hélène.
Très heureuse de t'accueillir dans le podcast pour la seconde fois. Je t'avais tendu le micro juste avant le scrutin législatif en septembre 2021. Tu couvres l'actualité allemande depuis 1990 ici à Berlin. Tu es le correspondant de Radio France Internationale et tu édites aussi une excellente newsletter sur l'Allemagne. Donc, sans tomber dans le journalisme fiction, sans délirer sur le contenu des discussions de cette rencontre trilatérale ou a fortiori même spéculer sur d'éventuelles annonces, ton regard et ton avis m'intéressent particulièrement sur cette séquence qui se joue actuellement. Tu as une certaine expérience des crises franco-allemandes. En quoi là, en ce moment, vit-on, ou ne vit-on pas d'ailleurs, quelque chose de nouveau?
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a contribué à exacerber des divergences traditionnelles et assez fondamentales entre la France et l'Allemagne, à commencer par les questions militaires, mais pas seulement. On peut citer évidemment le dossier énergétique, parce que là, d'un seul coup, il a fallu dans l'urgence réagir, et que quand on n'est pas d'accord et de loin, quand il faut trouver des accords dans l'urgence, il y a plus de frottements que quand ça peut se faire plus paisiblement. Maintenant, la question qui va être intéressante de voir, c'est si avec le changement politique en Pologne, si le triangle de Weimar renaît de ses cendres, un peu comme un phénix, et que peut-être ce triumvirat va permettre de sortir de certaines impasses franco-allemandes. La logique, et alors surtout que ces deux pays sont d'accord sur ce qu'il faut faire et qu'il faut soutenir l'Ukraine, serait qu'on accorde ses violons et on agisse de concert.
Oui, on attend tous, je crois, des impulsions politiques conjointes, voire un certain courage politique. Est-ce que les partenaires en seront capables? On peut avoir des doutes quand on regarde la situation en Allemagne en ce moment. L'ambiance n'est pas à la fête. On passe d'un mouvement de colère des agriculteurs à une grève dans les aéroports, puis une autre dans les chemins de fer. Il y a aussi les révélations sur les intentions glaçantes de l'extrême droite. Bref, je sais très bien que depuis notre poste d'observation, nous les journalistes, nous avons un peu tendance à exagérer le tableau, à le noircir, mais tout de même, comment toi tu ressens l'Allemagne là en ce moment ?
Oui, je crois qu'il y a une grande morosité, les gens ont un peu l'impression d'être dans le brouillard, même si la météo printanière est plutôt agréable. On a l'impression d'un pays qui a beaucoup d'inquiétudes, la conjoncture se porte mal, le modèle allemand est remis en cause, on ne sait pas trop où ce gouvernement tiraillé de tous côtés veut aller. Les gens sont inquiets pour leur situation actuelle et a fortiori pour l'avenir. Donc on a une ambiance morose, des inquiétudes sur l'avenir, beaucoup d'interrogations.
Et le retour de vieux fantômes, on a l'impression de retourner dans les années 1970 avec un débat sur les missiles, en l'occurrence en ce moment, livrés ou non des Taurus à l'Ukraine. On a aussi des révélations sur des écoutes russes, avec la fuite d'un enregistrement d'une réunion de travail entre hauts gradés de l'armée de l'air allemande. On a aussi appris qu'il y a sans doute la main de Moscou derrière ce qui a été la plus grande faillite de l'histoire allemande, le scandale Wirecard en 2020. L'un des dirigeants en cavale depuis 4 ans, travaillait pour les services de renseignement russes. Et puis pour couronner le tout, voici que la fraction armée rouge refait surface. L'une des terroristes qui faisait partie de la troisième génération de cette fameuse bande à Bader, recherchée depuis des décennies, vivait en fait incognito en plein cœur de Berlin.
On a un peu l'impression que l'histoire repasse les plats sous une forme un peu différente malgré tout. Effectivement, la fraction armée rouge qui ressort du formol comme un espèce de diable de sa boîte, là, en plein milieu de la capitale allemande à Berlin. La fédération des communes allemandes qui, il y a quelques jours, plaide pour qu'on réactive les bunkers de la guerre froide ou qu'on en crée de nouveaux. On a presque envie de prendre ses jambes à son cou et de descendre dans sa cave, quoi, quand on entend tout ça.
Est-ce que c'est cette fameuse « German Angst » que les anglo-saxons aiment bien pointer, hein? Finalement, c'est pas tout à fait un cliché, j'ai l'impression.
Je pense qu'il y a quelque part dans la tradition culturelle allemande, certains intellectuels parleraient peut-être de l'âme allemande, toujours une peur de l'avenir, une angoisse vers un précipice au bord duquel on se trouverait et dans lequel on pourrait être englouti. On voit régulièrement dans la presse que les mots chaos, par exemple, sont employés, l'apocalypse. Donc il y a comme ça des peurs qui reviennent régulièrement. On peut même retrouver ça dans la vie privée des gens. Est-ce qu'il faut faire des enfants pour avoir une progéniture qui va grandir dans un monde promis à l'apocalypse? Tout ça est finalement assez présent.
Et pourtant, Pascal, quand on lit les détails sur cette fameuse réunion des militaires allemands qui a été espionnée et enregistrée, on hallucine totalement sur leur naïveté. Ils ont quand même discuté de détails ultra sensibles sur une plateforme d'échange publique. Autre exemple, jusqu'à peu, j'ai appris qu'il n'y avait pas de salle sécurisée pour la commission défense dans le bâtiment du Bundestag. On sait aussi qu'il y avait une taupe russe au sein même du BND, c'est-à-dire le contre-espionnage allemand. Donc, si on caricature un peu, en forçant le trait, on se dit on a d'un côté une parano nationale, mais on n'en tire aucune conséquence.
Oui, c'est un peu paradoxal. En même temps, il y a ces peurs existentielles au niveau personnel. Il y a aussi le fait que, je pense, au niveau politique, on a pris conscience de la menace que représente la Russie de Vladimir Poutine. Et en même temps, on a parfois l'impression que si on compare ça avec le foot, l'Allemagne jouerait dans la troisième division en matière de sécurité, de cybersécurité, d'espionnage par rapport au maître espion russe formé à la bonne école du KGB. Et on voit aussi par ailleurs, en ce qui concerne les aspects militaires, qu'à la fois la volonté d'investir plus, de renforcer les moyens de la Bundeswehr, se heurte quelque part à une profonde tradition pacifiste aussi. On voit les hésitations au sein du SPD, vu les agissements de la Russie et ses activités. Tout cela quand même des relents de guerre froide qui se réchaufferaient en quelque sorte 30 ou 40 ans plus tard.
Olaf Scholz, en tout cas, il est assez clair sur l'état de la menace.
La menace liée à des activités d'espionnage, à des opérations de désinformation ou qui s'en prend à nos infrastructures critiques est très élevée.
C'était il y a quelques jours dans l'enceinte du Bundestag. J'imagine, Pascal, que tu as suivi cette session parlementaire. Qu'en as-tu pensé ?
Lorsqu'on a écouté les questions au gouvernement avec Olaf Scholz, qui répondait aux questions des députés, on a visiblement eu l'impression que le chancelier veut, par conviction et ou par calcul électoral, se profiler comme le chancelier de l'équilibre, de la raison, qui ne prend pas de décision à la hâte, qui veut éviter l'escalade, et qui surfe aussi quelque part sur une profonde tradition pacifiste dans le pays, au sein de son parti, mais pas seulement. Et ça répond, je crois, aussi aux angoisses de la population sur ces questions militaires et de politique étrangère, mais je crois au-delà.
Oui, le chancelier a vraiment endossé le rôle du papa rassurant face aux députés, et particulièrement ceux de la CDU, qui le poussaient à être plus clair sur ses vraies raisons de refuser l'étau russe à l'Ukraine. Et ça a été assez agité.
Herr Kollege, die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen.
Es beantwortet die Frage nicht, Herr Bundeskanzler.
Das lehne ich ab.
Sie spielen nicht mit klaren Karten.
Scholz dit notamment que les conservateurs font peur à la population en risquant une escalade du conflit. Et à la fin, celui qu'on a entendu, c'est Norbert Röggen, le monsieur affaires étrangères de la CDU, qui accuse Scholz de ne pas jouer carte sur table. Ce côté très insaisissable du chancelier, difficilement lisible dans sa communication, mais aussi dans sa politique, c'est un reproche qu'on entend aussi à l'étranger,
auprès des partenaires de l'Allemagne. Mais tu as raison, c'est peut-être tout simplement parce que le chancelier est plus en phase qu'on ne le pense avec sa population et que finalement, sa prudence, ses hésitations sont le reflet de tous ces doutes nationaux.
Oui, je pense que ça joue sans doute un rôle. On voit qu'il y a une majorité d'Allemands qui est contre la livraison des missiles Taurus à l'Ukraine. On voit aussi que, certes, il y a une majorité pour l'aide militaire à l'Ukraine, mais il y a aussi une minorité non négligeable qui trouve qu'il faut faire attention. Je crois que ces débats aussi sur les missiles Taurus, ils agitent beaucoup les milieux politico-médiatiques berlinois. Je ne suis pas sûr que l'Allemand moyen, ça l'agite autant. Je crois aussi qu'il faut quand même aussi souligner le paradoxe, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne est le pays qui a, en termes absolus, a fait le plus pour soutenir l'Ukraine, malgré des difficultés, etc. Et que malgré tout, Scholz conserve l'image, en tout cas dans les médias avant tout, de celui qui fait de la résistance à tout craint, c'est un peu paradoxal. Et aussi le fait qu'en Allemagne, on ait ces débats qui n'en finissent pas depuis 2 ans, alors qu'en France, à part les toutes dernières semaines, personne n'a vraiment lancé de débat sur ce que faisait ou ce que ne faisait pas la France. Voilà, on verra avec les européennes et a fortiori les régionales dans 3 régions de l'Est, si peut-être cette stratégie de Scholz profite à un SPD aujourd'hui très mal en point dans les sondages.
Jouer les chanceliers de la paix, le Friedenskanzler, ça a bien payé pour Gerhard Schröder en 2002-2003 au moment de la guerre en Irak, même si le grand modèle, en l'occurrence, c'est Willy Brandt. Willy Brandt qui est tombé quand on a appris qu'il y avait un agent est-allemand infiltré dans son cabinet. Alors on sait que Vladimir Poutine a été formé à ces méthodes d'espionnage quand il était au KGB, recruter des indics, c'était son travail quand il était en poste à Dresde dans les années 80. Mais on ne va pas tomber non plus dans des délires de scénario de film. Mais tout de même, Pascal, je me demande si cette morosité dont on parlait toi et moi, qui a l'air d'infiltrer tous les domaines de la vie en Allemagne, si elle n'est pas amplifiée ou au moins entretenue par des acteurs extérieurs. Toutes ces colères finalement, avec les risques de division, de déstabilisation de la société, on le sait, ça profite à des partis de contestation qui souvent ont des liens avec la Russie.
Oui, je pense que ça fait partie de la stratégie de Moscou. Il y a à la fois bon, les actions très visibles, enfin, surtout lorsqu'il y a des révélations sur des espions, des écoutes de discussions entre membres de l'état-major de la Bundeswehr, mais il y a aussi tout ce qui est beaucoup plus discret. Là, je ne veux pas spéculer sans avoir de preuves sur tel ou tel financement, conseil ou séminaire à l'ambassade de Russie pour l'AFD, mais il y a aussi tout ce qui peut se faire à travers de faux comptes sur les réseaux sociaux pour également alimenter cette morosité, ces inquiétudes, ces peurs de l'opinion publique allemande. En janvier, on avait vu des milliers de comptes, faux comptes, ou en tout cas à la main de probablement de la Russie, qui avaient été décelés, détectés sur Internet par le ministère des Affaires étrangères. Donc il est clair que la Russie va en Allemagne, qui est considérée un petit peu en raison de ses inquiétudes, de ses peurs, etc., etc., comme le maillon faible peut-être parmi les pays européens, et parce que aussi c'est un grand pays, c'est clair que la Russie va jouer cette carte cette année, mais également bien sûr l'année prochaine lorsqu'il y aura les élections générales pour renouveler le Bundestag.
Merci beaucoup Pascal Thibault, correspondant en Allemagne de RFI. Je rebondis, l'Allemagne est-elle déjà victime de la guerre hybride de Poutine? Ou est-ce que c'est, une fois de plus, un délire de journaliste? Attention, pour la suite de cet épisode, on va chercher à nuancer, à mettre en perspective. Vous savez, cette démarche intellectuelle en voie de disparition dans beaucoup de médias. Bref, je voudrais qu'on s'arrête sur les conflits sociaux qui secouent l'Allemagne depuis plusieurs mois. On a déjà parlé de la colère des agriculteurs. Elle s'est un peu tassée, sans qu'aucun problème ne soit réglé au fond. Évidemment, tout ça, ça attise les ressentiments. Mais une manifestation peut en cacher une autre, et les grèves s'enchaînent. Trains et avions ont été à nouveau immobilisés cette semaine. C'est la 6e fois de l'hiver que les cheminots cessent le travail, plusieurs jours de suite. Mais il y a aussi des arrêts de travail dans la fonction publique, les éducateurs de crèches, de jardins d'enfants, les soignants, la banque postale, etc., etc. Reportage dans les transports berlinois, David Philippot.
Les mains dans les poches, Martina attend à l'arrêt de bus du M41. Elle n'était pas au courant de la grève des transports publics ce matin-là à Berlin, mais cette comptable dans un cabinet immobilier est, par principe, solidaire du mouvement.
Oui, bien sûr, ce qu'ils font est incroyable. Je viens d'Italie et là-bas, les transports ne circulent pas la nuit parce que les chauffeurs ne veulent pas continuer sans prime. Pourtant, c'est un service très important. Parfois, je vais danser jusqu'à 3 ou 4 heures du matin et j'ai besoin de transport pour rentrer. Donc, je suis bien contente que ça marche encore la nuit ici. Ah, mon bus arrive.
Elle s'engouffre dans le bus jaune vif, ultra rempli. Ce mouvement de grève a été annoncé le vendredi pour le lundi, une tactique employée par les syndicats des transports pour, signe d'un durcissement, prendre de court la direction qui n'a pas le temps d'organiser un plan de secours pour les passagers, comme Rainer et Wolf, en rade à la gare de Südkreuz.
Je voulais partir à Munich où j'avais un rendez-vous, j'ai dû le déplacer. Et c'est déjà ce qui m'est arrivé le mois dernier. Pour faire court, ça m'énerve. Voilà tout.
C'est la merde. Il y a tellement de gens qui dépendent du train. Allez, nationalisez-moi tout ça.
Les grévistes réclament plus de temps, plus d'argent, un conflit attisé par la forte inflation, 6% l'an dernier, mais l'avocat Michael Dreyer, spécialisé dans la médiation des conflits sociaux, relativise.
Dans la perception du public, les grèves sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes que dans le passé. Ce qui crée ce sentiment, c'est que ce sont des grèves dans des secteurs qui touchent beaucoup de gens. Quand la Lufthansa fait grève, cela a des conséquences pour tous ceux qui prennent l'avion. Mais les statistiques ne confirment pas cette impression. La fréquence des grèves a un peu augmenté ces dernières années, mais l'Allemagne reste toujours très modérée si on compare. Ici, on a 18 ou 19 jours de grève par an pour 1000 salariés. En France, c'est 90 ou 100.
À cause du manque de bras, les syndicats sont en position de force pour négocier. Plus de 530 000 salariés font défaut à l'économie allemande, selon l'Institut IW. Et la démographie va encore aggraver ce déficit. Un travailleur sur 5 va partir en retraite d'ici 10 ans.
Bonjour Dominique Grillmayer.
Bonjour Hélène.
Au DFI, c'est toi qui t'occupes des questions de politique sociale. Et là, tu ne me parles pas de Ludwigsburg puisque tu n'as pas eu de train pour aller à l'Institut ce matin. Et donc, te voilà en télétravail. Quelle désorganisation! Rien ne va plus en Allemagne. J'ai lu dans la presse l'expression de grève permanente. Pas grève générale, hein, mais une grève quasiment constante dans un secteur ou dans l'autre. Est-ce que ça te paraît une expression pertinente?
On peut bien avoir cette impression, hein. Des négociations collectives qui n'avancent pas à la Deutsche Bahn et chez Lufthansa, les protestations des agriculteurs qui dégénèrent parfois, et tout ça en même temps. Donc il y aura bien une issue à la crise actuelle, hein. C'est clair. Mais c'est vrai, ça commence à agacer aussi la population.
Est-ce que c'est une situation exceptionnelle? Est-ce qu'on a déjà eu par le passé des moments où plusieurs branches professionnelles étaient en même temps en train de renégocier leurs conventions collectives, ce qu'on appelle ici les négociations tarifaires?
Oui, c'est déjà arrivé, on a déjà eu de telles situations. Par exemple, la lutte des syndicats de la métallurgie pour les 35 heures dans les années 80, avec des grèves de plusieurs semaines, non seulement dans la métallurgie, mais dans d'autres branches aussi. Peut-être il faut aussi dire qu'il ne faut pas se faire une fausse idée du dialogue social en Allemagne, bien qu'il soit souvent vanté en France. Les négociations collectives sont souvent difficiles, on ne se fait pas de cadeaux et quand ça bloque, les syndicats recourent à la grève. Et en cas d'échec, si les fronts sont trop durcis, comme c'est le cas maintenant pour la Deutsche Bahn par exemple, on peut même faire appel à un médiateur, une médiatrice pour identifier des pistes permettant de trouver un accord, ce qui aboutit normalement à une solution. Donc a priori, même si ça se produit tout en même temps pour le moment dans plusieurs branches, on peut dire que les structures sont là et a priori elles fonctionnent bien aussi.
Ce qui me frappe en ce moment, c'est que ce sont des conflits sociaux qui se jouent en parallèle, c'est vrai, mais il y a des tendances de fond qui se rejoignent. On l'a entendu dans le reportage, le manque de personnel touche toutes les branches et la question du pouvoir d'achat est également totalement partagée. Donc là, on pourrait dire qu'on a une sorte de convergence des luttes.
La situation actuelle est un peu particulière et complexe, à mon avis, pour deux raisons. D'abord, bien sûr, l'inflation. Bien qu'elle soit en baisse, les salariés demandent que leur perte réelle de pouvoir d'achat des derniers mois soit compensée. Et deux, un rapport de force qui est en train d'évoluer en faveur des salariés face à la pénurie de la main-d'œuvre qui s'installe dans beaucoup de branches en Allemagne. Les syndicats peuvent mettre la pression sur les entreprises, sur les patrons, en demandant de meilleures conditions de travail pour rendre les emplois en tension plus attractifs. Et là, le dialogue devient aussi plus compliqué. Les patrons, avec leur priorité de gérer les prix d'énergie, etc., ont vraiment des difficultés à répondre à ces revendications. Ce n'est pas encore la fin du dialogue social à l'allemande, mais les structures établies sont un peu mises à l'épreuve, c'est vrai. Et face à ce nouveau contexte, on peut s'attendre à ce que cette situation plutôt conflictuelle va durer.
Je voudrais justement qu'on s'arrête sur cette fameuse grève des conducteurs de train. Là, on a vraiment un exemple typique de bras de fer qui dérape ou qui s'envenime. On est loin, très loin, du cliché allemand sur le compromis avant tout, le dialogue social harmonieux, etc. Il faut dire qu'il y a une lutte d'influence entre plusieurs syndicats à la Deutsche Bahn et donc que ça conduit sans doute à une surenchère des cheminots qui sont représentés par le syndicat GDL, assez petit mais puissant et qui assume vraiment la confrontation.
Et deuxième aspect, on a au GDL un dirigeant syndical qui est prêt à aller très loin pour imposer sa revendication phare, les 35 heures pour les conducteurs de train sans réduction de salaire. Et petit détail, hein, ce monsieur va bientôt prendre sa retraite, un tel succès pourrait bien couronner sa carrière de syndicaliste. Pour résumer, on a une constellation, un cocktail assez toxique pour les négociations à la Deutsche Bahn. Et parfois, peut même avoir l'impression que le syndicat campe sur ses revendications et appelle à la grève, même si un accord semble déjà à portée de main. Et de l'autre côté, il y a des tentatives de la Deutsche Bahn de freiner la montée en puissance de GDL avec des moyens qui sont plutôt à la limite de l'acceptable. Et ce qu'il faut vraiment souligner dans ce contexte, il semble que la confiance entre les négociateurs s'est détériorée ces dernières années. Ça rend aussi plus compliqué de trouver un accord.
Tout ça, ça me fait quand même beaucoup penser à la France. Autre expression que j'ai lue récemment, Strike-Nation, la nation des grèves. Les Allemands se demandaient s'ils sont en train de devenir une Strike-Nation. Mais normalement, ça, c'est nous, les Français, qui sommes champions du monde, toute catégorie. Alors Dominique, est-ce que c'est un rapprochement franco-allemand, enfin un en 2024 ? En gros, est-ce que les Allemands sont en train de se transformer en Gaulois réfractaires ?
Bon, dans ces cas-là, comme à la Deutsche Bahn et aussi à la Lufthansa, par exemple, où il y a un syndicat pour les pilotes, un syndicat pour le personnel au sol, etc., on peut vraiment voir qu'il y a des tendances qui vont un peu dans la direction de la France, où c'est absolument normal d'avoir plusieurs syndicats au sein d'une même entreprise qui sont en concurrence et qui cherchent à trouver toujours de meilleurs accords que l'autre syndicat. Mais en global, en général, la situation est bien différente en France et en Allemagne. Déjà, quand on regarde le nombre de jours de grève, elle n'est pas comparable. Et surtout, bien sûr, le droit de grève est très encadré en Allemagne. C'est le travail en raison de revendications politiques est interdit par la loi. Mais oui, pour les syndicats catégoriels, il y a parfois des tendances qui vont un peu dans cette direction.
On a quand même des colères qui sont politiques et qui échappent aux syndicats. On l'a vu pendant la pandémie et puis là encore plus récemment avec les agriculteurs.
Voilà, ça n'a rien à voir avec des accords tarifaires à trouver. C'est vraiment une grande insatisfaction des agriculteurs qui se voient partout en Europe presque maintenant. Hein. Et parfois, ça provoque une certaine colère, parfois même une forme d'intimidation de responsables politiques. Et là, je dirais, c'est une tendance plutôt inquiétante parce que on connaît très peu ce genre de choses en Allemagne.
Dernière question, Dominique, sur les conséquences politiques. En parallèle de tous ces conflits sociaux ou sociétaux, cet hiver, un nouveau parti a vu le jour en Allemagne, autour de Sarah Wagenknecht, c'est une personnalité très charismatique venue du parti Die Linke, donc à l'extrême gauche. Son parti porte son nom, c'est le BSW, le Bündnis Sarah Wagenknecht, qui justement capitalise sur ses colères, l'inflation, le coût du logement, de l'énergie, mais aussi le rejet de l'aide à l'Ukraine, désignée comme la cause de tous les problèmes. Actuellement, dans les sondages, cette nouvelle formation est autour de 7%, et ça s'ajoute aux 17% de l'AFD, qui a un petit peu baissé dans les sondages, mais quand même très fort pour surfer sur les mécontentements, et ce depuis des mois. Donc voilà, on a une offre finalement politique protestataire qui s'élargit en Allemagne. Est-ce que c'est parce qu'il y a une demande, une grosse demande, des attentes de la population, ou bien au contraire, est-ce que c'est justement parce qu'il y a cette offre politique qu'il y a de la colère ou que cette colère est attisée ?
Alors d'abord, ces mouvements prétendent d'être à l'écoute des citoyens, d'entendre leur colère, oui, leurs craintes, leurs revendications. Mais au-delà du constat d'un certain malaise qui s'installe dans la population, ils sont souvent très peu à proposer pour trouver des solutions réalistes et efficaces, à mon avis. Et oui, ils nourrissent plutôt le mécontentement pour des buts électoralistes, plus généralement. Je crois qu'on peut observer une sorte de dégradation du discours politique avec des propos de plus en plus violents vis-à-vis l'adversaire politique. Et ce qui est pire encore, peut-être que cette tendance peut parfois même être observée au sein des partis historiques et modérés. Il manque de plus en plus la volonté d'écouter les arguments de celles et ceux qui n'ont pas les mêmes convictions politiques. C'est vrai pour les électeurs de l'AFD, on le sait. Mais dans une moindre mesure peut-être, c'est également vrai pour les sympathisants des Verts, par exemple, qui restent assez souvent dans leur bulle. Pour résumer, si les partis démocrates n'arrivent plus à tenir un discours qui est caractérisé par le respect de l'autre, ça devient vraiment compliqué.
Merci Dominique Grillmeyer pour cette analyse et je vous donne un dernier chiffre d'après une étude du cabinet d'audit KPMG pour le journal économique Handelsblatt. 58% des directeurs financiers d'entreprises internationales présentes ici estiment que l'Allemagne fait partie des 5 pays les plus stables politiquement de l'Union européenne. Il y a 2 ans, ils étaient encore 80% à le penser. Avant de vous laisser, je n'oublie pas notre rendez-vous bonne humeur, la minute K du podcast, 60 secondes pour mettre en avant une initiative qui fait du bien à la planète et au climat. Aujourd'hui, je donne la parole à Stéphanie Lacombe, chercheuse au Forum franco-allemand pour l'avenir, qui justement identifie et accompagne des projets innovants dans le domaine. Par exemple, la ville de Siegen, en Rhénanie du Nord-Westphalie, détruite à 90% pendant la Seconde Guerre mondiale, reconstruite ensuite tout autour de la voiture, quitte à faire disparaître la rivière qui passait au milieu.
Mais on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, le centre-ville n'était plus du tout vivable. Il fallait faire bétonner un fleuve pour en faire un parking. C'est quand même quelque chose. Dès les années 90, la ville a pensé comment réaménager son centre-ville. Et ça s'est concrétisé en 2012. Alors ce qui nous a particulièrement frappé à Siegen, c'est la démarche d'accompagnement de la population locale. Le processus a été accompagné d'une grande fête sur cette dalle de béton avant sa démolition. Les gens m'ont dit sur place que la ville avait complètement changé son caractère. Parce qu'avant, les gens venaient en voiture, faisaient leurs courses, repartaient, donc il n'y avait pas vraiment de vie dans l'espace public. Alors que là, maintenant, les gens prennent le temps de respirer, de se poser le long de la rivière. Dans nos échanges franco-allemands, Siegen a particulièrement frappé les villes françaises, parce que c'est une ville qui venait quand même de loin. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la place de la voiture en ville, et de la place de la nature, de l'adaptation au changement climatique. Et dans ce sens, Siegen a été un peu précurseur. Ça nous a été dit à plusieurs reprises. C'est un exemple qui a inspiré beaucoup.
Belle idée, belle réalisation en effet. Merci à l'équipe du Forum pour l'avenir pour cette petite pastille vivifiante. Et merci à vous toutes et tous d'être restés à l'écoute de cet épisode. Ce podcast est produit avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand en raison des fêtes de Pâques qui donnent lieu à un grand pont en Allemagne. Nous allons faire une pause un peu plus longue. Le podcast avec un K revient début avril dans 3 semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.